Bonjour à chacun.
Bonjour.
Donc, ceux qui s'attendaient à un PowerPoint, je suis désolé, il n'y en aura pas aujourd'hui. On a fait une brocante vendredi et c'est très épuisant et je n'ai plus les forces, désolé. Mais j'espère d'être assez vivant pour que vous endormiez pas. Juste avant que je commence, ça m'a frappé le dernier chant. C'est auprès de toi que je veux me tenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'auteur du chant, bon, c'est un couple, Charlie et Isabelle Sionnet. Ils sont de Genève. Et si je me souviens bien, en fait, Charlie, quand il était jeune, il était un peu dépressif. Et un de mes autres amis, qui a aussi composé quelques chants de Jeunesse en Mission, un jour, le Seigneur l'a conduit à aller voir son ami, voir Charlie, qui était en train de se pendre. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'espère qu'il n'y a personne qui est autant au fond du gouffre que ça. Mais voilà, le Seigneur m'a conduit à vous apporter un message d'encouragement. Et avec tout ce qui a déjà été partagé, les chants, merci Clébert, merci aussi aux prières. Je crois que le Seigneur a vraiment une ligne directrice pour aujourd'hui et veut en encourager plusieurs. Voir tout le monde, j'espère. Alors la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous réagissez quand vous rencontrez une difficulté, un moment difficile, une épreuve, surtout quand elle est inattendue. Si on est honnête, je pense que la majorité d'entre nous, on va se plaindre, on va peut-être déprimer, on va stresser, on va paniquer même, questionner Dieu, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je dois traverser ça. Et parfois même certains perdent la foi lorsqu'il y a des épreuves. Hein, comme Jésus l'a dit dans la parabole du semeur, ceux qui ont reçu la semence sur le roc, elle pousse et puis avec la chaleur, elle sèche. Et donc ça représente ceux qui, quand il y a une difficulté trop grande, ils abandonnent la foi. Que cela ne soit pas le cas parmi nous. Gardons confiance. Le Seigneur veut nous encourager à faire appel à lui, à lui faire confiance. Et sa parole nous le dit, et elle nous permet de trouver du réconfort, car Dieu nous parle à travers elle. Par exemple, dans Romains 15, 4, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et puis, plus on a des années de vie chrétienne, alors, j'essaie de compter combien j'en ai rapidement, mais c'est un peu difficile. 48, bientôt 48 ans. Alors, je ne sais pas combien d'années de vie chrétienne vous avez, peut-être c'est tout récent, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être plus que moi aussi, hein, je pense qu'il y en a ici. Normalement, vous avez dû, et plus on a donc de ces années de vie chrétienne, plus on a expérimenté l'intervention de Dieu dans notre vie. Normalement, en tout cas, j'espère. Alors, j'espère que pas tout le monde a traversé des moments très difficiles, mais certainement, on a tous eu des moments, des épreuves difficiles à traverser. Mais plus on en a traversé, plus on a aussi certainement vu Dieu à l'œuvre. Dieu nous encourager, Dieu répondre, Dieu nous guérir, nous exaucer, pourvoir, que sais-je. Et dans ces moments difficiles, justement, ce qu'il faut faire, c'est se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Ça revient à travers la Bible, hein. Et encore, il y a plusieurs chants aussi qui ont ce thème, de se rappeler de tous les bienfaits de Dieu, rappeler toutes les interventions de Dieu. Et ce n'est pas si facile de s'en rappeler, parce que quand on est au fond du trou, on est au fond du trou. Hein, il fait noir, on souffre peut-être, et c'est peut-être une souffrance physique, ça peut être une souffrance émotionnelle, ça peut être problème financier, que sais-je. Des problèmes de relation. Mais ce n'est pas si évident que ça. Mais ce matin, le Seigneur te dit, vous dit, nous dit, rappelle-toi, je suis fidèle. Je suis déjà intervenu et je peux encore le faire. Pardon. Et le plus dur, c'est quand l'épreuve se prolonge. Hein, parfois, on a des épreuves, c'est pas évident. Puis en quelques jours, ça arrive. Hein, en quelques jours, prof, la situation... Dieu intervient et c'est bon. Mais parfois, c'est beaucoup plus long. C'est des mois, c'est des années. Et donc, nous allons aujourd'hui étudier le psaume 40, écrit par David. Et ça, j'espère que ça va nous encourager avec son expérience que lui a vécue. Lui, il a eu bien des épreuves, hein, en tout cas, on le sait. Et il nous donne des pistes. Comment réagir donc, lorsque nous faisons face à une nouvelle situation difficile. Alors, je vais d'abord lire un psaume en entier. Heureusement, il est, c'est pas le psaume 119. Mais il y a quand même 18 chapitres, mais ça, 18 versets, ça devrait aller. Donc, psaume 40. Et j'ai lu dans la version La Colombe. Ça fait longtemps que je ne lis plus dans cette version, mais voilà, j'avais envie de revenir. Je crois que c'est une Bible que j'avais début des années 90, 90. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que tous ensemble, ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et soient confus, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis malheureux et pauvre. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. C'est puissant, hein? Donc, louer Dieu pour une délivrance passée, comme je l'ai déjà dit, c'est un thème qu'on retrouve souvent à travers la Bible. Il y a plusieurs psaumes qui en parlent. Et puis, ceux qui ont déjà lu toute leur Bible, j'espère qu'il y en a, certainement, hein, ça revient. Et parfois, c'est pas forcément, on rappelle pas ce qu'on a vécu, mais comment Dieu a délivré son peuple dans le passé. Hein, et c'est vrai que tout ce qui a été écrit, c'est pour nous encourager, nous instruire. Donc, c'est un peu la première chose à faire. Alors, qu'est-ce que Dieu se rappelle dans sa louange, dans ce début du psaume? Il dit qu'il avait mis son espérance en l'Éternel, et Dieu s'est penché vers lui. Il a écouté ses cris. Il l'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, a établi ses pieds sur le roc, a affermi ses pas et a mis dans sa bouche un nouveau chant, une louange à Dieu. Alors David ne précise pas dans quelle situation il est. Si on lit son histoire à partir de 1 Samuel 16, on découvre que David a souvent vécu des situations dramatiques, périlleuses, durant lesquelles sa vie était en danger, et nous les verrons un peu plus tard. Et puis, suite à cette délivrance dont il fait référence, ou ces délivrances, et que beaucoup de personnes ont pu observer, alors évidemment, quand il a été chercher une brebis qui était prise par un lion, un ours, au moment là, personne l'a vu, mais quand il a battu Goliath, tout le monde l'a vu. Quand il a combattu les Philistins, tout le monde l'a vu que Dieu était avec lui. Et donc, ça a encouragé les autres à aussi mettre leur confiance en Dieu. Dans la version que j'ai lue, la colombe et puis aussi la semeur, c'était au futur. Hein, quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Mais dans la seconde édition de Genève, c'est au présent ou dans le passé. Ils ont mis leur confiance. Ben, peu importe, hein, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans le présent. Quand on voit, quand on a, c'est pour ça l'importance des témoignages aussi. Ça nous encourage pour notre situation peut-être. Et donc, suite à ce qu'il a déjà expérimenté comme secours, David proclame qu'ils sont heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Et c'est vrai. Récemment, fin juillet, j'ai un collègue qui avait 32 ans, il est mort subitement. Il a été courir, faire son jogging le soir, après le travail, mort subitement. Et sa collègue avec qui il travaillait, il était proche, finalement, ils sont tombés amoureux et c'était sa compagne. Et là, d'après ce que j'ai entendu, vraiment, elle est effondrée. Et bon, c'est normal. Et je ne sais pas du tout s'ils avaient la foi, s'il avait la foi ou quoi, je ne pense pas. Mais quand on n'a pas la foi, c'est terrible quand des choses arrivent comme ça. Parfois, des gens se tournent vers Dieu à cause de cela. Mais heureusement, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous confier en l'Éternel. Et il va vous encourager. Et puis, David dit, ils sont heureux. Donc ceux qui ne se tournent, qui sont pas, ne se tournent pas vers les orgueilleux ou les menteurs. En hébreu, cette expression pourrait se traduire pour ceux qui s'égarent en se tournant vers un mensonge. Soit, ça veut dire vers un faux dieu, vers une idole. Et peut-être que David avait en tête son combat, sa victoire contre Goliath, quand il dit cela, parce que effectivement, Goliath, il a maudit David et le peuple d'Israël avec ses dieux. Et il était orgueilleux, hein, il était sûr de gagner, quoi. Surtout quand il a eu le petit David, là, il était sûr de gagner, mais l'Éternel était avec David et lui a permis de le vaincre. Et ensuite, c'était une grande victoire, hein, ce jour-là. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se tournent vers plein de trucs, les rebouteux, vers la voyance, ou vers rien, vers eux-mêmes. Mais c'est pas ça qui peut les sauver dans les moments critiques. Donc, dans cette première partie, on voit que vraiment David se rappelle de ce que Dieu a fait pour lui. Et je vous encourage aussi à vous rappeler ce que Dieu a fait dans votre vie. Pour moi, si je reviens dans les années, je ne peux pas tout vous dire comment, tout ce que Dieu a fait, sinon on en aurait pour toute la journée, gloire à Dieu. Mais je me souviens, c'était difficile de trouver une épouse. Ça a pris des années. J'ai prié, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Hein, vous pouvez rien faire vraiment pour faire accélérer les choses. Et puis Dieu a pourvu. Et je dis merci Seigneur pour cette merveilleuse épouse qu'il m'a donnée. Et en même temps aussi, je cherchais du travail. Et j'étais un peu plus âgé, c'était un peu plus compliqué. Hein, parce que quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai écrit une lettre. Et j'ai été engagé. J'avais 19 ans. Et quand j'avais presque 40 ans, c'était un peu plus compliqué. Mais il y avait un poste qui s'est ouvert dans une banque où un qui était mon voisin quand j'étais enfant était travaillé dans les RH. Bon, je ne sais pas s'il n'y a que ça qui a aidé, mais probablement ça a aidé. Et puis je me dis, merci Seigneur. Et puis ça a été difficile aussi pour avoir des enfants. Aussi des années de prière, de passage à l'hôpital et de prière et des essais ratés de fécondation in vitro. Et puis finalement, après encore des essais, Noé et Savannah sont là. Fantastiques filles, merci Seigneur. Rappelez-vous ce que Dieu a fait de merveilleux dans votre vie. Il doit y avoir des choses. Il doit y avoir des choses. Et si peut-être ce n'est pas encore arrivé, parlez encore avec d'autres gens, ils vont vous raconter. Ça va peut-être vous encourager à faire confiance en Dieu. Il va intervenir, ou il va encore intervenir. Il faut le louer, le remercier pour cela. Et notre foi va être renforcée. Dans la deuxième partie intermédiaire, dans le psaume, du verset 7 à 11, donc entre la louange pour l'intervention passée et le nouvel appel au secours, il y a une parenthèse peut-être un peu surprenante, mais qui est une prophétie messianique sur Jésus, qui est reprise dans la lettre aux Hébreux. Et nous y reviendrons. Ça commence par « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande ». Donc le sacrifice, c'est l'offrande d'un animal dont on fait couler le sang. Et l'offrande, c'est un sacrifice non sanglant, par exemple du blé, du vin, de l'huile. Et cette expression, je pense, c'est possible qu'elle fait référence aussi à ce qui est arrivé à Saül. Quand il devait obéir au commandement de Dieu par Samuel, de tout, c'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais c'était ce qu'il devait faire quand il devait combattre contre, c'était qui encore, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, mais en tout cas, Amalek, pardon. Et il devait détruire tout le monde, laisser personne en vie et prendre aucun butin. Et puis quand Samuel revient voir Saül, c'est pas trop ce qui s'est passé, il entend des bruits d'animaux et Saül explique dans un premier temps qu'il a gardé les meilleurs bœufs et les meilleures brebis afin de les sacrifier à l'Éternel. Et Samuel lui répond, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et aujourd'hui, dans la vie chrétienne, alors heureusement, on a pu faire des sacrifices sanglants, etc. Mais on a aussi des actes à accomplir, à donner notre offrande, venir à l'église, prier. Certains jeûnent aussi, parfois, dans l'année. Il y a l'étude biblique, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est bien, Dieu nous demande de les faire. Mais si on les fait... et que, par exemple, on triche dans les impôts, on trompe son conjoint, là, l'obéissance, c'est plus important. Ça ne sert à rien, toutes ces choses qu'on fait, si on n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est tellement important. Alors, personne n'est parfait, c'est vrai, mais si on s'est détourné, alors il faut revenir à Dieu, se repentir. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais c'est très important. Et David l'avait compris. C'est pour ça qu'il le dit. Et il continue un peu plus loin avec cette expression un petit peu bizarre, « Tu m'as ouvert les oreilles. » Ah bon, parce qu'elles étaient fermées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu m'as permis de comprendre. Et d'ailleurs, dans une autre version, c'est traduit de cette manière, « Tu rends cela très clair pour moi. » Donc ce qui est sous-entendu, c'est que David avait compris que Dieu préfère l'obéissance et la justice que les sacrifices et les offrandes. L'ouvrir les oreilles évoque donc la disponibilité à entendre et à obéir à Dieu. Et puis David redit que Dieu ne demande ni holocauste, donc ça c'est les offrandes d'animaux complètement brûlés, ni victime expiatoire, donc les sacrifices pour expier le péché. Et il dit, et ça c'est repris dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 et 7, avec une petite variation, même assez grande. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc il y a toujours cette histoire de faire la volonté de Dieu, et c'est vrai, Jésus a fait la volonté de Dieu en venant s'offrir comme sacrifice pour notre péché. Et ici, il est dit, tu m'as formé un corps, au lieu de, tu m'as ouvert les oreilles. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait. Seule chose que je sais, c'est que dans Hébreu, c'est la version grecque des Septante qui est citée, et dans la version des Septante, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que le scribe qui a traduit, peut-être qu'il a été inspiré simplement pour que ce passage puisse plus clairement faire référence à la venue de Jésus, la parole qui a été faite chair pour ensuite servir de sacrifice pour nos péchés. Et je me souviens que ce passage, j'ai eu à l'école biblique un cours sur l'épître aux Hébreux, et c'était la première fois que j'entendais, puis, parce que c'est vrai que si vous comparez les citations du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament dans le Nouveau, puis après vous allez dans votre Bible, souvent on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est pas tout à fait ça. Et C'est la première fois que c'est là que j'ai appris que ah, c'est parce que citation de la version grecque des 70. Voilà. Ça, vous le savez aussi, si ce n'était pas déjà le cas. Mais on va revenir au psaume 40, qui continue avec l'idée d'obéissance, où David dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Merci Martine, d'ailleurs, pour ta prière, qui était dans ce sens-là. Et donc, est-ce que c'est ça notre volonté aussi ? Quelque part aussi, Dieu nous teste un peu avec ses épreuves. Hein, rappelez-vous, peut-être, quand le peuple devait prendre possession de la terre promise, c'est bizarre, mais il dit, ouais, il a laissé des animaux sauvages, il a laissé des Cananéens et autres pour les tester, pour voir s'ils lui feraient confiance. Et ils étaient plus ou moins bons, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Et peut-être, c'est pas toujours parce qu'on a, on n'obéit pas qu'il y a une épreuve. Hein, ne faites pas comprendre ce que je n'ai pas dit, mais ça peut arriver. En tout cas, ce qui est important, Dieu, il cherche. Sa volonté, c'est que nous cherchions à lui obéir de tout notre cœur. Et on a besoin de lui, hein, on a besoin de l'Esprit pour le faire, bien sûr. Et c'est vrai, parce que pour que, si on veut que Dieu entende nos prières, nous devons avoir cette volonté d'obéir au Seigneur et d'accepter sa volonté. Parce que parfois, on demande une chose, et il y a autre chose qui vient. Hein, si vous vous rappelez la prédication sur les différentes possibilités de réponse à la prière. Jacques 5, 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Et puis inversement, dans Proverbe 28, 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Dans les deux derniers versets de cette partie, David déclare qu'il fait connaître la justice, la bonté et la vérité dans la grande assemblée. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Et il y en a qui ont eu l'occasion la semaine passée, donc malheureusement on n'a pas pu venir. Mais est-ce qu'il y en a qui étaient là, la semaine passée? Il y a eu des témoignages? C'était encourageant? Amen. Gloire à Dieu. J'ai prié pour ça quand même. Parce que comme je savais le thème de mon message, je me suis dit, ah. Et peut-être, vous n'avez pas eu l'occasion, mais si vous sentez que vous devriez partager quelque chose, n'hésitez pas à trouver Paul, et il va vous trouver sûrement une place lors d'un culte, il n'y a pas de souci. Ça nous encourage. Dans notre vie de tous les jours aussi, il n'y a pas seulement à l'église qu'on peut témoigner, on peut témoigner à notre entourage. Hein, et parfois, il y a quand même, je pense, des personnes, des collègues, des voisins, des amis, pas forcément chrétiens, vous leur partagez peut-être quand même des difficultés que vous avez. Et puis, quand Dieu intervient, qu'est-ce que vous faites? J'espère, vous dites, oh, hey, souviens, je t'avais partagé ça. Hey, écoute, Dieu est intervenu. Il a fait ci, il a fait ça. Alors parfois, les gens vont dire, oui, c'est le hasard. Mais il y a des choses impossibles qui est du hasard. Clairement, parfois. Et là, vous pouvez dire, non, c'est pas du hasard. C'est Dieu, c'est un miracle. C'est une intervention inattendue, impossible normalement. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et peut-être ça peut en amener à se remettre en question, à peut-être vous en posez un peu plus de questions sur la foi. Et peut-être certains vont se tourner vers Dieu. Peut-être même vous, là, vous êtes croyant aujourd'hui. C'est grâce au témoignage de d'autres personnes que vous êtes venu au Seigneur. En tout cas, ça a aidé. Donc n'hésitons pas à partager ce que Dieu a fait. Notre Dieu est un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Souvent, ils disent, ouais, la Bible, là, c'est un vieux livre, là, ça n'a plus rien à nous dire aujourd'hui, c'est dépassé. Pas du tout. Donc, si on récapitule, avant de faire sa nouvelle demande à Dieu pour intervenir, David le loue pour ses exaucements passés et il parle à Dieu et il dit, voilà, moi je veux vraiment t'obéir, alors s'il te plaît, écoute-moi, écoute ma prochaine prière. C'est un petit peu ça. Et donc le nouvel appel au secours, hein, donc versets 12 à 18, David fait connaître au Seigneur sa situation actuelle et son besoin de délivrance. Et c'est vrai que Dieu, il aime entendre ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il aime qu'on souffre, mais il aime qu'on fasse appel à lui. Il attend que ça. Et Jésus a donné la, la parabole là, où, du berger qui laisse son troupeau pour aller chercher la centième qui s'est perdue. Et il va tout faire pour la retrouver, pour la secourir. Et je pense que hier, j'ai vu sur Facebook, il y avait une photo d'un berger. Il était sur sa mobilette et il tenait une brebis dans ses bras pour la sauver du feu en Grèce. Hein, on ne sait pas qu'en Grèce qu'il y a les feux. Et ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et le Seigneur, il fera tout pour nous sauver, pour nous secourir. Faisons-lui confiance, même si ça tarde parfois. Ça prend plus de temps qu'on aimerait. Et donc il dit, « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. » Donc David affirme sa confiance en Dieu. Il croit que le Seigneur va intervenir, car il est bon et son amour demeure à jamais. Dieu est fidèle. Amen. Et il dit, « Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Ici, on semble comprendre que David réalise que sa situation est liée à certaines de ses erreurs du passé. Hein, mais alors, quelles sont les situations qu'il a vécues? Je vais voir si je ne fais pas trop long, ça devrait aller. Alors, j'en ai répertorié comme ça. Je ne dis pas que c'est tout à fait exhaustif, mais pas loin. Donc, j'en ai déjà parlé. Il a dû rescaper des bêtes de son troupeau, de la griffe de l'ours et du lion. Je ne sais pas si vous allez faire ça. Hein? Affronter un ours et un lion, je ne sais pas. Hein? Ensuite, il a été affronté Goliath. Là aussi, mais t'es malade, David. Hein? D'ailleurs, on lui a dit, hein? On lui a dit, mais t'es malade. T'es même pas un soldat, là. T'as même pas 20 ans. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais en tout cas, ce n'était pas un guerrier aguerri. Mais il avait confiance en Dieu pour le combattre. Et puis il a subi la jalousie du roi Saül, parce qu'il a tellement de succès dans ses campagnes contre les Philistins. Et donc Saül va chercher à le tuer plusieurs fois. Et David va même devoir s'enfuir, changer de cachette. Hein, il était poursuivi, hein, et heureusement l'Éternel l'a toujours délivré. Et puis il a un temps, il s'est enfui chez Achish, roi de Gath, en terre philistine. Et on l'a reconnu. Et là, il avait peur d'être tué, donc il a simulé d'être un fou, là, en bavant sous sa barbe, et puis il a pu s'en aller. Et puis il y a eu plusieurs autres cas, je ne vous raconte pas, il a même été menacé de lapidation quand les femmes et enfants de sa troupe avaient été enlevés. Et puis, après son adultère avec Bathsheba, le fils qui sera né de cette union, a tombé malade et mourra. Et puis il y a eu sa fille Tamar qui a été violée par son frère, demi-frère Amnon. Et cet Amnon a été tué par un autre demi-frère, Absalom. Et puis David a aussi subi la révolte de cet Absalom. Et là, il a dû de nouveau fuir Jérusalem. Heureusement, Dieu l'a encore sauvé. Donc, mais certainement, il y avait d'autres épreuves. Hein. Je ne pense pas que c'est... Là, on a juste... Enfin, c'est déjà beaucoup. On en a beaucoup, c'est sur... Oui, presque une vingtaine de chapitres, hein, entre 1 Samuel 16 jusqu'à 2 Samuel. Et à chaque fois, Dieu l'a secouru. Et donc, David crie au secours. « Seigneur, je suis de nouveau persécuté, sous la menace. J'ai besoin de toi. Veuille me délivrer, ô Éternel. Viens, hâte-toi à mon secours. Hein, » On voit qu'avec ces mots... Et aussi dans le dernier verset, on voit que ça tarde un peu là. Hein. Et peut-être c'est votre cas, mais il va venir. Faites-lui confiance. Il donne quelques précisions hein, sur sa situation. On lui en veut à sa vie. Il dit qu'il recule et rougit ceux qui désirent ma perte. Hein, donc, et bien sûr, ce combat, on va dire physique, cette menace physique, c'est aussi une forme de combat spirituel. Alors nous aujourd'hui, on n'a peut-être pas des gens qui menacent notre vie, mais on a des mauvais esprits, il y a des puissances qui cherchent à nous nuire, c'est certain. Et on a besoin aussi que Dieu nous en délivre. Et puis dans l'avant-dernier verset, David donne un encouragement à ceux qui, comme lui, sont dans l'épreuve, et cet encouragement est pour chacun de nous. « Que tous ceux qui te cherchent soient dans la joie et se réjouissent en toi. » Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Et là, je précise bien, il ne faut pas se réjouir parce qu'on est dans l'épreuve. Ce n'est pas ça qui est écrit. Hein. C'est dit « Réjouis-toi en Dieu ». Ce n'est pas évident, ce n'est pas si évident. Mais ça aide. Quand on est vraiment, on voit tout le noir, tout est noir, on peut quand même se réjouir en Dieu. Parce que Dieu est quand même avec nous. Et il veut nous soutenir. Il veut nous en faire sortir à un moment donné. Je le crois. Et puis, donc, il termine, verset 18, en avouant sa peine, et toujours en affirmant à nouveau sa confiance en Dieu. « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Il pense à toi. Tu es mon aide et mon libérateur. » Et puis, ça termine, « Mon Dieu ne tarde pas. Hein, » peut-être c'est aussi votre prière. On ne sait pas pourquoi ça dure. En tout cas, très souvent, ça dure plus longtemps qu'on aimerait, hein, je pense. Si quelqu'un peut dire « Oh non, moi ça va, l'épreuve c'était long, j'ai bien aimé. Hein. » Non, je ne pense pas. On aimerait que Dieu ne fasse plus vite. Mais c'est difficile. Mais ce n'est pas que Dieu n'entend pas. Il sait dès le début. Mais il veut nous transformer durant cette attente. Et récemment, j'étais encouragé. Et encore une fois sur Facebook, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il faut trier. Hein. Ça c'est vrai. Mais j'avais un post, donc c'était en anglais, je vous traduis, il dit « Dieu ne t'ignore pas, il est en train de tout ajuster pour ton bien. Ce qui semble être une attente est en fait une préparation pour une gloire plus grande. » Et puis, je suis dans un plan de méditation sur le psaume 23 avec l'application YouBible, ouais, je suis certain que vous pouvez connaître. Bon, je suis un peu lent parce que j'ai commencé il y a un mois. Il y a moins de 30 versets, mais j'avance. Et puis il y avait un commentaire qui disait par rapport à la vallée de l'ombre de la mort: j'ai progressé dans les moments difficiles de ma vie et je crois que vous le pouvez aussi. Savez-vous ce que Dieu fait quand vous traversez une vallée, donc un moment difficile? Il vous prépare à ce qu'il a en réserve pour vous. Continuez à avancer et accrochez-vous au fait que Dieu est avec vous. Rien ne pourra alors vous empêcher de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour votre vie. Continuez à avancer. Il y a une chanson de Ron Kenoly. Don't stop, go ahead, don't stop. Hein? Ne t'arrête pas, va en avant, continue. Et je comprends, il y a des moments où on a envie d'abandonner, mais le Seigneur dit non, continue. Fais-moi confiance, je suis avec toi, je te soutiens. Donc le psaume 40, j'arrive à la conclusion, est une sorte de recette pour traverser une épreuve et demander l'aide du Seigneur. Et comme toute recette de cuisine, donc, pour préparer un plat, il faut suivre les étapes point par point. Et il faut cuisiner soi-même. Hein, bon, parce que bon, vous lisez une recette, ah, ça a l'air bon, mais si vous ne la faites pas, vous ne pourrez pas en profiter, ni vos invités, votre famille. Ça restera une recette virtuelle. Il faut suivre les étapes. Et quelles sont ces étapes qu'on a vues? Donc, dans l'épreuve, rappelons-nous les exaucements passés du Seigneur dans notre vie. Peut-être les exaucements dans la vie de d'autres. Remercions-le et louons-le pour ces exaucements passés. Faisons connaître autour de nous ce que Dieu a déjà fait. Mettons notre vie en ordre, repentons-nous de tout péché, soyons prêts à lui obéir. Ayons confiance en l'intervention de Dieu, crions à Dieu, supplions-le de nous délivrer, de nous répondre. Et puis on peut même oser, comme David, ne tarde pas, hein, fais que ça ne soit plus si long. On peut le dire. Je termine avec Hébreux 4, 16, aussi un verset magnifique. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen.